Les lectures de Lisel. Je vous présente aujourd'hui le roman de Richard Adams intitulé Les Garennes de Watership Down. C'est la Bible en mieux écrit et avec des lapins de garennes. C'est un classique anglais qui date de 1972 et que connaissent tous les anglo-saxons, adapté à la télévision, au ciné, en film d'animation, mais que je trouve encore méconnu en France et pourtant c'est une merveille. Le titre original est Watership Down. Il a été repris par les éditions Toussaint L'Ouverture qui l'ont ressorti en 2016. Moi je l'avais lu sous le titre francisé Les Garennes de Watership Down chez Flammarion. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est une folle épopée à travers la campagne anglaise et une saga familiale sur plusieurs générations de lapins de garenne. Alors bien sûr, à la manière d'Orwell et sa ferme des animaux, ou de la BD Mouse d'Art Spiegelman, ou même des fables d'un certain Jean de La Fontaine, les animaux servent à raconter les hommes. Richard Adams, l'auteur, a été très marqué par sa mobilisation lors de la Seconde Guerre mondiale et il nous donne à lire un conte merveilleux et terrible, comme tous les bons contes, dans lequel on suit une fratrie de lapins sauvages qui doivent trouver un nouvel asile, une nouvelle garenne. Fable écolo, récit mythologique, oui, les lapins ont une mythologie, saga initiatique, histoire au pluriel d'amour, de haine, de réconciliation, de fuite, de retrouvailles, glossaire de langue lapine, il y a tout dans cette garenne. Et je me réjouis pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et vont pouvoir s'y plonger et découvrir le concept de schrar. Quelle chance! Un extrait de Watership Down de Richard Adams. La saison des primes vertes était passée. À l'orée du bois, là où les arbres laissaient place à une clairière en pente douce, seules quelques taches d'un jaune décoloré subsistaient encore parmi les mercuriales vénéneuses et les racines de chêne. Un peu plus bas, au-delà d'une vieille barrière et d'un fossé envahi de broussailles, s'étendait un pré, percé çà et là de terriers de lapins. Par endroits, l'herbe avait complètement disparu, et partout traînaient des chapelets de crottes entre lesquels rien ne poussait hormis la jacobée. Plus loin encore, un maigre cours d'eau disparaissait presque sous le cresson et le populage des marais. Un chemin pour charrette le franchissait d'un petit pont avant de remonter l'autre versant jusqu'à un portail à claire-voie ménagé dans une haie d'épines. Le crépuscule n'allait pas tarder et le soleil couchant de ce mois de mai empourprait les nuages. La pente sèche était constellée de lapins. Les uns grignotaient les rares brins verts autour de leur terrier, tandis que d'autres osaient s'éloigner un peu, en quête de pissenlits ou d'une prime verte oubliée. Assis bien droit sur une fourmilière, un guetteur surveillait les alentours, les oreilles dressées et le nez alerte. Il n'y avait pourtant rien à craindre. Un merle sifflait tranquillement à la lisière de la forêt. De l'autre côté, aux abords du ruisselet, tout était dégagé et silencieux. La paix régnait sur la garenne. Au sommet de la butte, non loin du cerisier où le merle chantait, les ronces dissimulaient presque entièrement plusieurs terriers. À l'entrée de l'un d'eux, dans la pénombre verte, deux lapins étaient assis côte à côte. Au bout d'un moment, le plus gros se mit en mouvement, longea discrètement le fourré avant de s'aventurer dans le fossé pour réapparaître dans la prairie. Quelques instants plus tard, l'autre vint le rejoindre. Le premier s'immobilisa dans un rayon de soleil et se gratta l'oreille avec la patte arrière. Même s'il avait à peine un an et devait encore achever sa croissance, il n'avait pas cet air perpétuellement paniqué qu'affichent la plupart des périphérés, les jeunes lapins, qui, n'étant ni bien nés, ni d'une taille ou d'une vigueur exceptionnelle, sont brimés par leurs aînés et relégués en bordure de la colonie, où ils vivent comme ils peuvent, le plus souvent à la belle étoile. Celui-là paraissait dégourdi. Il y avait quelque chose de vif et d'intelligent, que ce soit dans ses gestes ou dans les regards qu'il jetait autour de lui tout en se frottant le nez. Une fois assuré qu'il n'y avait aucun danger, il baissa les oreilles et enfonça son museau dans l'herbe. Son compagnon semblait moins à l'aise. Petit, avec de grands yeux, sa façon de lever la tête et de la tourner de tous les côtés au moindre bruit trahissait moins de la prudence qu'une certaine nervosité. Son nez frétillait sans cesse, et lorsque derrière lui un bourdon s'approcha bruyamment d'un chardon, il sursauta et fit volte-face. Apeurés par cette agitation, deux lapins à proximité commencèrent à détaler, jusqu'à ce que le plus proche, un mâle qui avait le bout des oreilles noires, reconnaisse le froussard et retourne à son repas. « Fausse alerte !» dit-il. « Ce n'est que fever, un rien l'effraie. Alors, Ramnus, qu'est-ce que tu me disais ?»« Fever ?» demanda l'autre. Pourquoi ce nom ? C'est le dernier d'une grosse portée. Shraarchun, tu comprends ? Note de l'auteur : les lapins ne savent compter que jusqu'à 4. Au-delà, tout est shraar, que ce soit beaucoup ou 1000. Tchoum, au contraire, veut dire petit. Donc le nom de Shraarchun, qui est sans doute né d'une portée de plus de 4 lapereaux, peut se comprendre comme petit 1000, c'est-à-dire pas grand-chose d'un ensemble, un avorton. C'était un extrait de Watership Down de Richard Adams.
C'était les lectures de Lisel.